Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Sophie Malibu.
Bonjour à tous, merci de rester avec nous pour cette heure d'appel sur l'actualité, jusqu'à 9h en temps universel, 11h heure de Paris. Dans une demi-heure, c'est la libre antenne. Nous attendons vos commentaires, vos analyses sur les sujets de votre choix, des questions qui ont fait les titres de l'actualité cette semaine, ou bien au contraire, des sujets que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder ici. Bref, tout ce qui vous intéresse. Rejoignez-nous pour lancer le débat à partir de 10h30 au 33 9 693 693 70 si vous appelez de l'étranger, 09 693 693 70 si vous êtes en France. Mais auparavant, comme chaque jour, nous commençons par vos questions sur l'actualité. Vos questions à un journaliste de la rédaction ou un expert contacté tout spécialement pour vous répondre et vous livrer son analyse. La première question nous emmène sur le terrain religieux. Enfin, religieux, mais pas que. Il s'agit de ces églises aux multiples étiquettes qui sont parfois une bonne occasion de faire affaire pour ceux qui savent exploiter le filon de la misère humaine. Alors, la question nous est posée depuis Lomé, au Togo, par Désiré. Bonjour Désiré.
Bonjour Sophie. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Bien, alors dites-nous, quelle est votre question, Désiré?
Nous constatons la naissance de plusieurs églises en Afrique. J'aimerais savoir premièrement, qu'est-ce qui explique la priorité gravissante de ces églises sur le continent? Quelle est la technique utilisée par ces pasteurs pour attirer des croyants?
Donc nous sommes également en ligne avec Alexandra Branjon, qui est l'envoyée spéciale permanente de RFI en Afrique du Sud. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Donc effectivement, toutes sortes de cultes fleurissent sur le continent africain, d'ailleurs, mais pas seulement. Elles s'appellent Église du Réveil, Église évangélique, Église de la guérison, etc. Elles promettent monts et merveilles sur terre ou au ciel, en enrichissant des gourous plus ou moins scrupuleux. Certains gouvernements tentent d'y mettre un peu d'ordre. C'est le cas du gouvernement sud-africain, apparemment, puisqu'il a ouvert une enquête ce 24 août sur ces églises d'un genre un peu particulier. Déjà, Alexandra, comment s'explique ce phénomène? Désiré nous dit dans sa question, elles sont de plus en plus nombreuses ces églises. Alexandra.
Oui, alors la première chose, c'est qu'on ne connaît pas le nombre exact de ces églises ici en Afrique du Sud, qualifiées d'églises commerciales. Récemment, un scandale impliquant l'une de ces églises a attiré l'attention des autorités sur le sujet. Il s'agit d'un pasteur à Pretoria qui est accusé de faire manger des serpents et des rats vivants à ses fidèles. Le pasteur a pris des photos, les a mis sur les réseaux sociaux, probablement pour se faire de la publicité, et c'est comme ça que le scandale a commencé. Avant lui, il y avait eu d'autres exemples. Un pasteur du côté de Durban qui faisait boire de l'essence à ses fidèles. Alors clairement, c'est un phénomène qui inquiète les autorités, qui est en augmentation, mais difficile de, pour l'instant, d'en dire l'ampleur. Pourquoi les gens sont attirés par ce genre d'église? Le Conseil sud-africain des églises, qui est une organisation qui regroupe des églises de différentes dénominations, a condamné ce qu'il appelle des pratiques hérétiques et a accusé ces pasteurs d'instrumentalisation. Le désespoir des plus pauvres pour se faire de l'argent.
Désiré, à Lomé, vous avez une autre question?
Et quelles sont les mesures prises par le gouvernement sud-africain et togolais pour réguler ce fléau?
Alexandra?
Alors justement, le gouvernement a annoncé l'ouverture de cette enquête. Avec cette enquête, il s'agit déjà de mieux comprendre le phénomène. Qui sont les gens attirés par ces églises? Pour quelles raisons? Comment ces églises sont financées, pour ensuite faire des recommandations sur comment les gérer. Alors, au moment de l'annonce de l'enquête, un des membres de la commission indiquait qu'il ne s'agissait pas d'interdire ces églises, mais de contrôler les abus. La constitution sud-africaine autorise la liberté de culte et de croyance tant qu'il n'y a pas d'activité criminelle. Comment réguler ces cultes? Eh bien, le Conseil sud-africain des églises, une fois de plus, a suggéré, par exemple, d'émettre des certificats aux pasteurs, afin de vérifier qui ils sont, quelle est leur formation. Pour l'instant, n'importe qui peut ouvrir une église, vous plantez une tente dans un champ et puis il n'y a aucun contrôle, aucune formation. D'ailleurs, dans le cas de ce pasteur à Pretoria qui fait manger des serpents et des rats, écoutez, c'est un jeune de 27 ans dont on ne sait absolument rien.
Et enfin, une dernière question de la part de Désiré.
Oui, quelle influence ces églises ont sur leurs croyants?
Alors écoutez, déjà si vous arrivez à faire manger à quelqu'un un rat vivant, ça déjà indique que vous avez déjà pas mal d'influence sur cette personne.
Une sorte pour l'instant, ça au minimum limite, un pouvoir de conviction.
Voilà. Pour l'instant, ça se limite à ce genre d'action un peu sensationnelle, mais en effet, ça peut déborder sur quelque chose de plus grave. Mm-hmm. Je pense que pour l'instant, ce qui inquiète les autorités, c'est surtout l'aspect financier. Hein. Ces prophètes autoproclamés ne travaillent pas pour rien. Dans la plupart des cas, les églises ne requièrent pas de droit d'entrée, mais elles fonctionnent sur le principe de don, et les autorités craignent que les fidèles un peu crédules ne se fassent dépouiller.
Merci beaucoup Alexandra, c'était très intéressant. Mais étant donné que cette question nous vient de Lomé, nous avons aussi appelé notre correspondant au Togo, Peter Dogbe, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Non, moi c'est Sophie. Alexandra était en Afrique du Sud, c'est pas grave.
Ouais.
Peter,
bonjour,
et oui.
Sophie, bonjour à tous.
Je vous en prie. Et, alors vous avez bien travaillé sur ce sujet aussi dans votre pays, au Togo. Mais qu'est-ce que vous constatez sur ce plan de ce phénomène de religion particulière? C'est un phénomène préoccupant.
C'est un phénomène plus que préoccupant puisque ça s'installe partout. Elles ont pris d'assaut coin et recoin du pays à la recherche de femmes délivrées. Elles les trouvent tout aussi facilement. Chaque dimanche, dans plusieurs quartiers des villes et villages, entre 9h et 13h, l'ambiance est tout aussi électrique à cause de ces nombreuses églises qui officient. Les fidèles chantent, crient, tout cela à l'aide d'instruments de musique moderne, batterie, guitare, haut-parleurs, et on y écoute de plus en plus de vuvuzelas qui portent loin le bruit. Beaucoup de voisins n'en veulent pas tellement les séances de prière, non plus d'heures. En début de semaine, on m'a raconté, depuis 2 ans, un propriétaire de maison cherche en vain d'acquéreurs pour sa maison mise en vente. Cette maison est à côté d'une église qui fait beaucoup de bruit. Pas que de bruit, ces églises sont très nombreuses, des dénominations tout aussi diverses, et elles sont aussi accusées de toutes sortes de pratiques. Ouais.
Et alors justement, Peter, ce que vous nous expliquez, c'est que c'est vraiment pas discret. Alors, que font les autorités togolaises? Est-ce qu'elles s'intéressent au sujet? En quelques mots.
En quelques mots, rien pratiquement pour le moment sur les nuisances comme sur les abus. Hein. En 2011, on a entendu parler d'un test de réglementation en préparation et depuis, rien.
Ah bon?
Rien pour le moment.
Bon, bah écoutez, affaire à suivre. Merci beaucoup, Peter Dogbe. Merci, Désiré, pour vos questions qui nous ont permis de faire un point sur cette question assez inquiétante. Voilà, autre sujet, on passe à présent à la santé. La suspension de quelques 700 médicaments génériques a été décidée en juillet dernier par l'Union européenne. Décision entrée en vigueur il y a tout juste une semaine dans les pays membres de l'UE. Il s'agit de médicaments fabriqués en Inde. Lors d'une inspection de routine par l'Agence française de sécurité du médicament, sur le site d'une entreprise installée à Hyderabad dans le sud de l'Inde, des irrégularités ont été constatées qui ont conduit la France, dans un premier temps, à suspendre ces médicaments. Une interdiction qui s'est ensuite étendue à tous les États membres de l'Union européenne. Les génériques figurant sur cette liste sont retirés du marché par les pays de l'UE où ils sont commercialisés jusqu'à ce que de nouveaux tests les autorisent. Car pour l'instant, ce sont les tests qui sont incriminés, ce n'est pas la fabrication en elle-même. Cette information, en tout cas, suscite bien des questions chez nos auditeurs. Bienvenue nous appelle de la capitale béninoise, Porto Novo. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Sophie, bonjour Paris, comment est-ce que ça va et comment est-ce qu'on va Wan et ses vacances?
Ah, écoutez, il revient lundi. Pour l'instant.
Il revient lundi.
Tout à fait. Il vous manque, mais il sera là lundi.
On vous explique d'abord la bienvenue.
Bien. Écoutez, alors, nous avons aussi en ligne, pour répondre à votre question, nous avons Valérie Salomon, qui est directrice des médicaments génériques à l'ANSM, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Bonjour Valérie Salomon.
Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à vous présenter ce sujet.
Très bien, alors bienvenue. Dites-nous quelle est la première question que vous souhaitez poser à Valérie Salomon.
Eh bien, bonjour Valérie. Eh bien, la première question, comme vient de le dire Sophie dans l'introduction, est pourquoi avoir suspendu ces médicaments?
Oui, la raison de la suspension, quel danger représentent éventuellement ces 700 médicaments génériques recensés sur la liste, Valérie Salomon?
Alors, pour nous, c'était donc cette décision de la commission du 19 juillet, en fait, on l'attendait, puisque c'est au début, au printemps 2014, que nous avons fait une inspection donc sur ce site, et comme vous l'avez dit, à Iberabad de GVK, qui a en fait un site qui ne fabrique pas les produits, hein, mais qui fait des études pour des laboratoires pharmaceutiques. Et lors de cette inspection, nous avons vu des incohérences, en fait, sur les documents qui permettent de suivre les patients au cours des essais cliniques. Et c'était suffisamment important pour que l'on informe la Commission européenne et qui a décidé donc de suspendre tous les médicaments.
Mmh. Et alors, je reviens vers Bienvenue. Vous avez une autre question à propos des patients?
Oui, Valérie, à vous entendre. Valérie, à vous entendre. J'aimerais savoir les conséquences que cela peut avoir sur les patients et aussi sur la clientèle.
Mmh. Oui, tout à fait. Alors en fait, comme on était à l'origine, on a anticipé cette décision de la commission. Et dès décembre dernier, nous avons décidé le retrait. Donc pour la France, c'est 33 médicaments hein, qui sont concernés, et non
voilà,
pas les 700.
Sur les 700 médicaments incriminés, il n'y en a que 33 qui sont effectivement commercialisés
voilà,
en France.
Voilà, tout à fait. Donc ces médicaments, nous avons décidé leur retrait, donc en décembre dernier. Pour la France, il n'y a pas de difficulté parce qu'en fait, il y a de nombreux laboratoires qui font les mêmes produits. Donc, il n'y a pas eu de rupture de stock et les patients ont pu poursuivre leur traitement sans difficulté.
Mmh. Et simplement, cette suspension n'est pas tout à fait définitive, si j'ai bien compris.
Alors oui, c'est une suspension provisoire. Tous les pays européens donc ont leur liste de travail donnée par la Commission. Et donc en France, nous sommes en contact avec 13 laboratoires qui sont concernés par cette décision. Ils nous sont en train de nous donner donc de nouvelles études d'équivalence entre leur médicament générique et le médicament de référence. On analyse chaque étude et au fur et à mesure, si c'est conforme, on autorise les médicaments à nouveau.
Vous avez déjà pu en réautoriser ?
Tout à fait, on en a réautorisé 18 sur les 33 et donc on va mettre à jour un tableau sur le site de l'Agence du médicament pour que tout le monde puisse avoir accès, savoir si le médicament est autorisé à nouveau ou s'il est encore suspendu.
Donc en fait, vous n'avez pas fini de réexaminer la liste des 33 médicaments. Ça n'est pas qu'il y ait, que le reste des médicaments sont jugés dangereux et ne peuvent pas revenir sur le marché. On n'en est pas encore là.
Ah non, pas du tout. C'est vraiment une étude qui est en cours, qui quand même demande du travail. Nous sommes très exigeants sur la qualité des dossiers pour les médicaments génériques. Ce sont des produits que l'on traite vraiment comme les médicaments de référence. Donc on étudie avec beaucoup d'attention les dossiers. Et voilà, et donc ça se fait au fur et à mesure.
Parce qu'il y a déjà une certaine méfiance à l'égard des génériques. Alors une liste de 700 produits suspectés, c'est tout de même un problème de confiance pour les consommateurs, enfin pour les patients.
Bah, pour l'agence, en fait aussi, ce qu'on a voulu montrer, c'est que on avait une attention, les mêmes exigences, en fait, pour les médicaments génériques que pour les médicaments de référence, qu'on les contrôlait, même dans un pays lointain comme l'Inde, et on les contrôle aussi sur les essais cliniques.
Mmh. Alors, il y avait une toute dernière question de la part de notre auditeur. Bienvenue.
Oui, Sophie, j'aimerais demander à Valérie, quand peut-on attendre à l'application vraiment réelle de la décision de la Commission européenne dans tous les autres États membres de l'Union européenne?
Alors, c'était une décision de la Commission du 19 juillet, donc elle est maintenant effective et c'est pour tous les États membres. Hein, ils sont tous en train là de réanalyser les dossiers des médicaments, comme nous.
Très bien.
Nous, on a un peu anticipé. On a déjà 18 levées de suspension sur les 33, mais tout le monde travaille sur ce sujet.
D'accord. On a bien entendu, en tout cas, cette décision était tout à fait contraignante et respectée dans ces pays-là. Ben, merci beaucoup. En tout cas, bienvenue pour votre question et merci Valérie Salomon d'y avoir répondu. Je rappelle que vous êtes donc directrice des médicaments génériques à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. On termine cet appel sur l'actualité, sur la politique française, avec ce feuilleton à rebondissement autour de la famille Le Pen et du Front National. Jeudi 20 août, le fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen, a été exclu du Front National dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée par sa propre fille, Marine, qui dirige désormais le parti. Le bureau exécutif a sanctionné Jean-Marie Le Pen pour ses déclarations provocantes. On y reviendra, notamment à propos des chambres à gaz, etc. Bon, c'est un énième épisode dans cette affaire qui oppose désormais la fille et le père, car Jean-Marie Le Pen n'accepte pas cette exclusion. Yves nous appelle du Togo à ce sujet. Bonjour Yves, quelle est votre question ?
Bonjour Sophie, bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. Et comme vous venez de l'introduire, je venais de prendre cette exclusion la semaine passée. Et à propos, j'ai trois questions.
Oui, la première tout d'abord, s'il vous plaît.
Cette exclusion est en conformité avec les fondements juridiques du parti.
Attendez, on va commencer par là, on va commencer par le commencement. Donc nous avons Pierre Firsion, du service politique de RFI qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Pierre.
Bonjour Sophie.
Alors que disent les statuts du parti à ce sujet ?
Alors est-ce que cette exclusion va être validée ? Est-ce qu'elle est conforme avec les statuts, nous demande de Yves ? Eh bien, on va déjà dire que ce sera la justice de trancher, hein, parce que on n'imagine pas qu'il ne va rien se passer, il va y avoir un recours. Jean-Marie Le Pen va déposer un recours dans la justice, on en reparlera. Dans les statuts pour l'instant, il est a priori stipulé que la présidente du parti a le droit, le bureau exécutif a le droit d'exclure un de ses membres. C'est stipulé dans l'article 8 que la qualité de membre se perd par radiation ou exclusion pour motif grave prononcé par le conseil d'administration, par son bureau ou par le président. Alors, Marine Le Pen accuse son père d'avoir commis pas moins de 15 fautes graves, hein, des fautes qu'elle a recensées dans un courrier qu'elle lui a adressé le 4 août dernier.
Par exemple.
Les reproches qu'elle lui a fait, on les connaît, hein, vous le disiez tout à l'heure, il y a à la fois ses propos sur la Seconde Guerre mondiale, notamment sur les chambres à gaz, ses nombreuses attaques contre elle, Marine Le Pen, contre son bras droit, Florian Philippot, et contre sa petite-fille, Marion Maréchal Le Pen. La présidente du parti d'extrême droite reproche également à son père, vous vous souvenez, d'avoir fait intrusion sur la scène Place de l'Opéra le 1er mai, à l'occasion du défilé du Front National. Bref, tous ces griefs ont été recensés par Marine Le Pen pour motiver la décision de l'exclusion.
Mais alors, avant de prendre la deuxième question, une petite parenthèse, si vous le permettez. Jean-Marie Le Pen et son avocat n'ont toujours pas reçu la notification de l'exclusion.
Oui, alors,
ils s'en plaignent.
Ben oui, à l'heure où on parle, hein, Jean-Marie Le Pen est toujours membre du Front National. Il a été exclu la semaine dernière, mais il est toujours membre du Front National. Pourquoi ? Parce que, pourquoi est-ce que le Front National a tardé à envoyer cette notification ? Eh bien, pour une raison bien simple. Dans l'entourage de Marine Le Pen, on sait très bien que Jean-Marie Le Pen va contester son exclusion devant les tribunaux. Or, s'il avait reçu ce document la semaine dernière, il aurait pu rapidement faire un recours. Et si la justice lui avait donné raison, eh bien, cela aurait pu venir perturber l'université d'été du Front National la semaine prochaine. Alors, au Front National, on a préféré donc laisser traîner les choses. On s'en cache pas. Hein. La notification de son exclusion, il va la recevoir dans les prochaines heures, puisqu'il y a un bureau exécutif du parti qui se tient cet après-midi. Il devrait la recevoir d'ici demain et a priori, la justice n'aura pas le temps de se prononcer d'ici samedi prochain, dès le début de l'université d'été du FN.
Oui. Alors, la semaine dernière, lors du bureau exécutif qui auditionnait son père, Marine Le Pen a décidé de ne pas siéger. Et si elle a agi de la sorte, c'est pour que la décision d'exclure de son père ne soit pas retoquée par la justice. Parce que c'est ce que nous demandait notre auditeur, c'est est-ce que la justice peut de nouveau retoquer cette décision.
Oui, dans la liste des fautes qui sont recensées, dont je parlais précédemment, Marine Le Pen a reproché à son père de s'en être pris à elle et à son bras droit, Florian Philippot. Or, pour ne pas apparaître à la fois comme juge et partie, la présidente du FN a préféré se mettre en retrait. Elle a demandé à Florian Philippot de faire de même. Tous deux n'ont donc pas siégé le 20 août dernier. Et malgré leur absence, le bureau exécutif a tout de même voté l'exclusion de Jean-Marie Le Pen par 4-2. On voit là que Marine Le Pen a essayé de prendre toutes ses précautions pour que cette fois-ci, la justice valide cette décision d'exclusion.
Donc, juste un dernier mot sur cette affaire, parce que nous n'avons pas le temps de redonner la parole à notre auditeur, mais il n'y a plus de recours possible pour Jean-Marie Le Pen.
Alors si, il va pouvoir là contester devant la justice sur l'exclusion, et il va sans doute contester même les griefs qui lui sont reprochés. Il va dire, ah ben non, j'ai pas commis de faute lourde, et on le sait, Jean-Marie Le Pen a toujours été extrêmement procédurier, il va mener la procédure jusqu'au bout, et en plus, il y a une autre question qui va se poser, s'il perd son statut d'adhérent, est-ce qu'il peut conserver son statut de président d'honneur du parti ? Ça, c'est un débat qui a lieu pour l'instant entre juristes.
Merci beaucoup, Pierre Firsion. C'est la fin de cette première partie d'appel sur l'actualité. Nous nous retrouvons dans un petit instant pour la libre antenne, c'est-à-dire vos interventions sur les sujets de votre choix.